Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il est de retour. Même carrure, même menton, même façon de saluer la foule. Benito Mussolini crève à nouveau l'écran en Italie. Le Duce est le héros d'une comédie au cinéma depuis le 1er février. On y voit l'ancien dictateur, du moins vous l'aurez compris, un acteur qui joue son rôle, propulsé à Rome en 2016, l'occasion de nombreux quiproquos. L'occasion aussi de confronter les Italiens à une idéologie, le fascisme, qui n'appartient pas qu'au passé. Le 4 mars prochain auront lieu des élections législatives. Parmi les formations en compétition pour des postes de sénateurs ou de députés, plusieurs revendiquent leur filiation avec cette famille de pensée. On trouve même dans la coalition de droite, menée par Forza Italia de Silvio Berlusconi, un mouvement, Fratelli d'Italia, qualifié de post-fasciste. Or, c'est cette coalition qui domine aujourd'hui les sondages. Alors, cette porosité avec l'idéologie fasciste s'est notamment manifestée début février, lorsqu'un homme a ouvert le feu à Macerata, une petite ville du centre du pays, blessant 6 migrants, tous africains. Avant d'être arrêté, le tireur a eu le temps de faire le salut fasciste, acte condamné par la classe politique, avant que certains, tels la Ligue du Nord, ne trouvent des circonstances atténuantes à l'agresseur. Alors, Italie, est-ce que le fond de l'air est brun ? C'est la question que nous allons poser ce soir à nos trois invités. Marianne Matar-Bonucci, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à Paris 8, spécialiste du fascisme. Vous allez publier au mois de mars prochain aux éditions du CNRS « Totalitarisme fasciste ». Pour discuter avec vous, Marc Lazard, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur des universités en histoire et sociologie politique à Sciences Po. Vous êtes spécialiste de l'Italie. Vous dirigez notamment le groupe de recherche sur l'Italie contemporaine au CERI. C'est le Centre d'études des relations internationale. Et puis elle est en duplex des studios de Radio France à Rome, c'est Mathilde Imberti, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous êtes journaliste et vous êtes la correspondante permanente de Radio France en Italie et au Vatican. Alors j'imagine qu'à ce titre, vous avez été amené à couvrir cette fusillade de Macerata que j'évoquais le 3 février dernier, donc dans le centre de l'Italie. Tout d'abord, Mathilde Imberti, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a aucun doute sur le caractère raciste de cette fusillade ?
Absolument aucun doute, d'autant que le tireur lui-même l'a reconnu. En fait, il a reconnu que c'était une vengeance. Il voulait venger, entre guillemets, la mort d'une jeune fille italienne. C'était un fait divers particulièrement sordide, d'une jeune femme qui a été tuée par un certain nombre de Nigérians. Alors, 4 Nigérians ont été arrêtés pour ce meurtre. Son corps a été découpé en morceaux. Enfin, vous avez un fait divers absolument sordide derrière tout ça. Et le tireur de Macerata a voulu venger la mort de cette italienne, donc il est allé comme ça sur un coup de tête pratiquement, mais il était armé, il est allé dans les rues de Macerata tirer à bout portant, il a blessé 6 personnes, des Africains, il visait précisément des Africains, il l'a tout à fait reconnu très clairement.
Et avant d'être arrêté, il s'est enveloppé dans le drapeau italien avant de faire le salut fasciste. Marianne Matar-Bonucci et Marc Lazard, est-ce qu'on peut dire que cette attaque, c'est comment dire un fait divers, peut-être parmi d'autres, qui touchent ou qui ont touché ces dernières années des migrants, et en particulier des migrants africains, Marianne Matar-Bonucci ?
C'est un fait divers particulièrement atroce quand même parmi d'autres, effectivement. Depuis quelques années, les manifestations de xénophobie et de racisme en Italie sont devenues quelque chose de banal. Insultes contre des ministres qui sont, issus de la diversité. Manifestations dans les stades de foot, qui sont un haut lieu, effectivement, pour la xénophobie. L'affaire du t-shirt d'Anne Frank, racisme, antisémitisme. Aussi, il y a quelque temps, donc des tifosi, des supporters qui ont mis un t-shirt donc avec l'effigie d'Anne Frank comme manifestation d'antisémitisme. Donc ça s'est totalement en effet banalisé et le contexte d'afflux des migrants en Italie évidemment donne du crédit aux partis qui développent ce genre de thème.
Marc Lazard ?
Oui, absolument. Il faut quand même distinguer deux choses. L'immigration et les migrants qui contribuent à un climat effectivement tendu, comme on vient de le rappeler. L'immigration, c'est 5 millions à peu près d'immigrés régulièrement enregistrés en Italie, c'est-à-dire une multiplication par 4 par rapport à 2001. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un choc migratoire en Italie, incontestablement, avec une série de questions d'intégration de cette immigration. immigration, dont je rappelle que la principale composante est quand même roumaine et donc relevant de la religion orthodoxe. Hein. Mais ça, c'est une chose. Il y a ensuite l'immigration clandestine, ceux qui, justement, par définition, ne sont pas enregistrés. Et là, les estimations sont très difficiles à faire. Et puis, il y a une troisième chose à partir de 2014, c'est les flux de migrants venus de l'autre côté de la Méditerranée dans des conditions dramatiques. Et la conjonction de ces trois éléments fait qu'effectivement, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion et dans les actes dont on vient de parler, fait qu'il y a des réactions de peur, de repli, de xénophobie et de racisme. Alors, il y a des contre-forces, hein, on y verra peut-être, il y a quand même des gens qui s'opposent à ça, mais incontestablement, on voit cela.
Et est-ce qu'on peut aussi ajouter dans cette conjonction une forme de complaisance, peut-être, dans certaines réactions politiques, même si ça a d'abord été condamné, hein, cette fusillade de Marc Lazare, mais on voit par exemple un parti, et pas des moindres, comme la Ligue du Nord, qui tout en condamnant le tireur, très vite lui trouve des excuses en pointant justement la politique migratoire qui est menée par le gouvernement italien.
Absolument, sachant que l'auteur de cet attentat, parce que c'est un attentat, qui d'ailleurs visait les Africains, mais aussi le siège du Parti démocrate. Hein. Il a tiré sur le siège du Parti démocrate, le parti de centre-gauche, était membre de la Ligue du Nord. Il avait été candidat sur les listes municipales en tant que Ligue Nord. Et effectivement, la Ligue Nord de Matteo Salvini a condamné du bout des lèvres en expliquant que la vraie responsabilité, c'était la présence des migrants et des immigrés. Donc, Silvio Berlusconi en a rajouté une couche, puisque dans sa rivalité, dans son alliance conflictuelle avec la Ligue Nord, il a expliqué qu'il fallait rejeter 600 000 immigrés immédiatement et que cela représentait une bombe sociale. Oui, évidemment, il y a de ce point de vue-là une instrumentalisation par des partis de droite. Il ne faut pas oublier aussi les frères d'Italie, hein, Fratelli d'Italia.
Ouais, c'est peut-être ce qui est marquant dans cette affaire Marianne Mazzarbonucci, c'est-à-dire ces condamnations du bout des lèvres qui peuvent aussi s'expliquer par le fait qu'en Italie, on est en pleine campagne pour les législatives et que s'il y a peut-être un terreau favorable au rejet de l'immigration, eh bien, un certain nombre de formations politiques vont plutôt jouer sur ce terrain-là, justement.
Oui, absolument, mais je crois que ça fait partie depuis toujours, hein, quand même, du fonds de commerce de la Ligue, de toute façon, que justement cette condamnation de cette immigration, cette xénophobie aussi, qui s'est exercée longtemps aux dépens des méridionaux et qui maintenant est tournée principalement vers ce qu'on appelle les extra-communautaires ou les étrangers en Italie. Donc, ils ont, de ce point de vue-là, pratiquement la même idéologie. Simplement, il n'y a pas d'appel au meurtre, mais il y a des appels à les renvoyer avec des charters, à fermer les frontières. C'est au cœur et c'est le dénominateur commun, avec d'autres thèmes, deux ou trois thèmes, de la coalition actuelle qui est conduite par Berlusconi, hein, avec un discours encore plus dur de la part de... Enfin, plus dur, je ne sais même pas, d'ailleurs, analogue de la part de Fratelli d'Italia. C'est présenté, sans doute, comme le problème majeur à l'heure actuelle, donc, du pays.
Mathilde Alberti, est-ce que c'est un discours qui, justement, trouve un écho favorable au sein de la population italienne? Et est-ce que cette forme, peut-être, d'indulgence à l'égard du tireur, elle se retrouve aussi chez l'Italien de la rue, même si on ne sait jamais très bien définir ce que ça veut dire, justement? Mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui a de l'écho au sein de la population italienne?
Bon, alors la population italienne, elle a tout de même été une réaction très négative, hein, par rapport à cette fusillade. Un sondage est sorti là, il y a quelques jours, la réaction des Italiens à cette fusillade. Une grande majorité d'Italiens critiquent, hein, évidemment, ce recours à la violence. Ça c'est très évident.
Il y a une grande manifestation aussi, hein, d'ailleurs, faut le dire.
Oui, il y a une grande manifestation. Alors j'allais en venir à cette manifestation. Il y a eu une grande manifestation. Oui, une manifestation, cela dit, de laquelle était absent le Parti démocrate, parti de centre gauche. On pouvait s'attendre à sa présence. Il n'a pas été présent. Un seul parti était présent, c'est le parti, enfin, mouvement même. Libéré Uguali, qui vient d'être créé en quelque sorte à la faveur des élections par le président du Sénat, Pietro Grasso, qui se trouve donc à la gauche de la gauche, mais le Parti démocrate n'était pas présent à cette manifestation. Il y avait qui ? Il y avait les centres sociaux, il y avait des associations antifascistes, il y avait des étudiants, et puis il y avait des Italiens lambda, en quelque sorte. Donc il y a eu quand même une réaction, et la majorité des Italiens, évidemment, étaient tout à fait affligés par cette fusillade. Néanmoins, il est vrai que l'arrivée massive de migrants pose question aux Italiens, évidemment, puisque c'est un pays qui qui se relève tout à fait péniblement de la crise, dans lequel les inégalités se sont creusées. Les Italiens ont du mal à faire face à leurs dépenses, ils ont du mal à boucler la fin de mois. Et effectivement, ils se demandent bien comment leur pays peut accueillir toute la misère du monde, pour reprendre une expression bien connue.
Un mot sur cette absence du Parti démocrate lors de la manifestation, Marc Lazare. Est-ce qu'il faut y voir un signe de prudence de la part de cette formation, se disant on va peut-être pas se montrer dans une manifestation dans un moment justement où il y a des élections et ce sont des thèmes qui sont suffisamment, on va dire, sensibles pour prendre le risque de nous faire perdre des voix, sachant que le Parti démocrate n'est pas promis non plus un grand succès lors de ce scrutin.
En effet, non, je crois que le Parti démocrate est passé par deux moments. Le premier moment, ça a été celui que vous dites, c'est-à-dire prudence, d'autant plus que le maire de Macerata est un maire du Parti démocrate et qu'il avait appelé, il avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de manifestation dans sa ville. Et il y a eu des manifestations de néo-fascistes, ouvertement, qui ont voulu proclamer leur solidarité avec Luca Traini, c'est-à-dire celui qui a tiré à Macerata. Et effectivement, comme Mathilde Amerti le rappelait, une manifestation, disons, de la gauche et au-delà, au-delà. Et donc le Parti démocrate voulait pas s'engager là-dedans, sans doute de peur de froisser un certain nombre d'électeurs, et avec une idée qu'il fallait pas participer à un processus de radicalisation qu'on connaît, qui renvoie à un enjeu historique dont on pourrait parler, entre fascistes, antifascistes, communistes, anticommunistes, et donc de se retirer un peu. Mais, deuxième temps, le Parti démocrate appelle à une grande manifestation ce samedi, une manifestation nationale samedi, contre le fascisme, contre le racisme, et Matteo Renzi, le leader du Parti démocrate, a essayé de nouveau, de mobiliser l'antifascisme pour essayer justement de rassembler la gauche derrière lui. Et il a fait des déclarations très nettes en disant on ne peut pas être démocrate si on n'est pas antifasciste en Italie. Et d'ailleurs, je lisais dans la presse ce matin des critiques venues des journaux de droite en disant Matteo Renzi reprend justement l'opposition entre fasciste et antifasciste, il appartient à une autre époque, c'est fini, etc. Donc voilà, deux temps, d'après moi, dans l'action du Parti démocrate.
Alors justement, Mathilde Amberti, comment est-ce que c'est perçu, ça, en Italie, le fait de mobiliser, d'appeler à se mobiliser contre le fascisme? Est-ce que c'est perçu comme quelque chose peut-être d'anachronique, avec l'idée que, de manière, le fascisme, ça appartient au passé?
Alors, c'est ce que dit par exemple la droite. Berlusconi et Salvini le disent, le fascisme, mais non, quel danger fasciste, ça n'existe plus. Salvini se défend de défendre les fascistes et dit, moi je suis tout à fait en faveur de la démocratie. Donc c'est la droite balaye d'un revers de main en fait le danger fasciste, clairement. La majorité des Italiens, écoutez, c'est difficile à dire, on verra combien de personnes effectivement participent à cette manifestation la samedi dont parlait Marc Lazare. J'ai pas l'impression que ce soit le thème principal, vous voyez, de discussion, moi, chez les Italiens que je rencontre. Oui, le thème de l'immigration, oui, un thème principal. Le thème de la remontée des mouvements fascistes, sincèrement, j'ai pas l'impression que ce soit aussi prégnant. Il faut quand même préciser que ces mouvements fascistes, électoralement parlant, représentent une toute petite minorité. Il y a deux mouvements qui avaient manifesté notamment à Macerata en soutien aux tireurs, qui sont Casa Pound et Forza Nuova. Bon, ces deux mouvements se présentent aux élections du 4 mars. A priori, ils n'ont jamais dépassé 1% des voix, vous voyez. Donc
on va aller justement dans un instant sur ces formations-là, pour voir ce qu'elles représentent et ce qu'elles sont susceptibles de représenter. Mais pour rester encore un instant sur cette capacité peut-être justement de la gauche à mobiliser autour de l'antifascisme. Est-ce que vous partagez, disons, l'impression de Mathilde Amerti, Marianne Tarbonucci?
Qu'il y ait un essoufflement de l'idéologie antifasciste qui est quand même, il faut s'en souvenir, fondatrice de la République. La Constitution a été le dernier grand moment justement d'unité antifasciste qui était née pendant la Seconde Guerre mondiale. Et toutes les valeurs justement qu'on a mis dans la Constitution sont directement liées précisément à l'antifascisme. La Constitution italienne est une constitution qui se voulait extrêmement progressiste et qui concevait la démocratie comme une démocratie sociale, quelque chose qui devait aller très loin. Alors la crise de l'antifascisme n'est pas nouvelle. Elle a commencé pratiquement dès les années 60. À partir des années 90 et à partir du moment moment où Berlusconi a rompu un tabou puisqu'il a associé au gouvernement donc Fini, Alleanza Nazionale, et qui est la formation issue du parti néo-fasciste créé dans l'immédiate après-guerre, eh bien là, il a effectivement cassé un tabou. Alors, c'est
la
une
crise
mémoire...
de l'antifascisme, elle ne peut pas être liée aussi à, alors, appelons ça une crise du fascisme peut-être, c'est-à-dire au fait que cette idéologie-là soit moins présente pendant peut-être un certain nombre d'années en Italie, ce qui atténue forcément l'opposition à cette idéologie.
Oui, je crois que c'est très juste, au sens où l'Italie a quand même connu une vraie période de démocratie, et donc le danger fasciste paraissait effectivement s'éloigner, alors que c'était pas le cas dans les années 50 et 60, où les partis de gauche avaient peur encore d'un nouveau coup d'État, du retour du fascisme au pouvoir. Et puis il y a surtout un phénomène de relève des générations, et pour toute une partie des jeunes gens qui n'ont pas connu le fascisme, qui en ont entendu un peu parler à l'école ou à la télévision, ils finissent par perdre de vue ce qu'a été la réalité du fascisme, dont finalement il ne reste dans le paysage que ce que Gentile appelle le fascisme de pierre, hein, c'est-à-dire ces édifices qui sont dans toutes les villes italiennes, mais la réalité liberticide et antagoniste avec les droits de l'homme, donc du fascisme, on en perd un peu la mémoire.
Alors pour un certain nombre de jeunes gens que vous évoquiez, Marianne Matar-Bonucci, peut-être que le fascisme aujourd'hui, il peut être incarné non pas directement par des images d'archives de Benito Mussolini, mais par ce film que j'évoquais en début d'émission, une comédie qui organise justement le retour du Duce, Nous sommes à Rome, en 2016.
È stato il fondatore del fascismo, il capo del governo.
È senza dubbio il personaggio del momento.
Il vostro nome?
Benito Mussolini. Il mio obiettivo è di viaggiare per l'Italia e di riconquistarla.
Sareste d'accordo su una dittatura?
Ma una dittatura libera, però. Una dittatura non troppo dittatura.
Voilà, Sono Tornato de Luca Miniero, c'est un film qui est sorti le 1er février dernier. Je suis de retour, on y voit donc un acteur évidemment qui incarne Benito Mussolini, qui lui ressemble beaucoup, qui se retrouve dans un certain nombre de situations. Et puis il y a aussi des images qui sont de l'ordre presque du documentaire, où on le voit confronté à des Italiens de la rue qui manifestement, lorsqu'ils l'aperçoivent, lui adressent plutôt des signes amicaux. Alors Mathilde Amberti, je ne sais pas si c'est un film que vous avez eu l'occasion de voir déjà ou pas?
Alors,
encore?
Pas encore, pour être tout à fait honnête.
C'est un film qui est perçu de quelle manière, là aussi? C'est-à-dire c'est une comédie, mais c'est une comédie qui peut un peu déranger, étant donné son personnage principal.
Oui, c'est ça. Le propos est assez flou, en fait. Bon, j'ai pas vu le film, hein, donc c'est vrai que je peux pas vraiment discuter dessus, mais c'est un Mussolini, effectivement, qui est accueilli avec une certaine bienveillance. Et le réalisateur de ce film-là l'a expliqué dans les journaux. Pour lui, c'est assez fidèle, finalement, à ce que l'image aussi, une certaine image de Mussolini renvoie, et notamment aux jeunes générations, effectivement, dont on vient de parler. C'est-à-dire, c'est ce vieux tonton, vieux grand-père, dont on sait pas bien, finalement, on sait pas bien ce qu'il a fait de mal en Italie. Vous voyez, il y a une mémoire du fascisme qui s'est un peu diluée, c'est vrai, avec les années, et il est assez surprenant de trouver, par exemple, à Rome, tout à fait, en centre-ville, à deux pas du ministère de l'Intérieur, par exemple, vous avez une boutique qui vend des bières avec l'étiquette Benito Mussolini, tout à fait normalement, des sous-bocs de verre à l'effigie de Mussolini. Et une certaine partie de la population que ça ne choque plus. Voyez, donc c'est ça aussi, il me semble-t-il, que raconte ce film Sono Tornato.
Marc Lazare.
Je l'ai pas vu, hein, le film. Je sais qu'il est inspiré d'un film allemand, hein. Au départ, c'est un film allemand sur le retour de Hitler, qui a été adapté en Italie. C'est vrai que ça fait une certaine sensation. J'étais à Rome récemment, quand vous êtes sur Piazza Venezia et que vous voyez cette énorme affiche où on voit donc l'acteur Mussolini de dos en face du balcon, le fameux balcon de la Piazza Venezia où Mussolini a harangué les foules. Ça fait un certain effet. Mais c'est vrai qu'il y a de ce point de vue-là, d'après ce qu'on m'a dit dans ce film, une sorte de vision un peu du fascisme opérette, du fascisme folklorique, qui a tendance à exister toujours, mais là je parle sous le contrôle de Marianne, qui est bien meilleure spécialiste que moi de ces sujets-là. J'ai l'impression que par rapport à la recherche historique, qui a vraiment fait d'énormes progrès sur la question du fascisme, en particulier grâce à notre collègue et ami Emilio Gentile, parmi tant d'autres, qui ont montré que le fascisme a été sans doute une des grandes expériences de totalitarisme en Italie, cette percée, si j'ose dire, historiographique de recherche n'est pas passée dans le débat public. En tout cas, très peu. Et il y a encore cette idée que finalement, le fascisme, c'était un peu un truc folklorique, ça fait un peu sourire, que c'était pas très sérieux, puis que les Italiens, c'était brava gente. Je voudrais dire juste deux autres choses par rapport à la conversation précédente. Si ça a baissé un peu l'antifascisme par rapport au fascisme, c'est aussi lié à un phénomène, il ne faut pas oublier, c'est qu'à partir de 1990, Gianfranco Fini a défascisé une mouvement. C'est un homme politique qui a eu une évolution, lui aussi, comme de l'autre côté les communistes, qui a reconnu les crimes du fascisme, qui est allé très loin, qui est allé à Jérusalem, qui est allé à Yad Vashem pour dire que le fascisme avait commis des horreurs, après avoir eu un moment d'hésitation. Et du coup, il a défascisé son propre parti. Et Frères d'Italie, c'est, si j'ose dire, le mouvement social italien, canal historique, c'est-à-dire ceux qui disent, qui ont toujours refusé l'évolution de Gianfranco Fini. Et enfin, je termine juste par une chose, il y a eu un sondage quand même, c'est préoccupant celui-ci, qui disait qu'un tiers des électeurs du centre-droit pourraient voter Mussolini s'il était de retour. Un tiers.
Alors, c'est justement une question que j'allais vous poser d'ailleurs, hein, dans la suite de la conversation. Si Mussolini était de retour, comment est-ce qu'il serait accueilli sur cette idée, en tout cas, que Mussolini... Alors moi, ça me surprend assez finalement ce que vous dites, Marc Lazare et Mathilde Imberti, sur l'idée qu'en Italie aussi, on puisse avoir l'image d'un Mussolini comme un dictateur d'opérette. Je pensais que c'était uniquement réservé peut-être à un public français qui ne connaît forcément pas très bien, enfin en tout cas beaucoup moins bien que les Italiens normalement cette période. C'est aussi quelque chose qui existe en Italie, Marianne Malcarbo?
Oui, tout à fait. Et ça a toujours été le cas. Effectivement, les historiens ont cherché à combattre cette image-là, mais à travers une partie des médias, la presse grand public, certaines formes de littérature de gare, c'est en effet l'image qui a été donnée. Bah, il faut pas oublier que c'est un régime qui a duré quand même plus de 20 ans, hein, et qui a connu différents avatars, justement. Donc, ce que disent les Italiens, ce que disent les Italiens qui ont cette image-là, c'est au fond, à partir de 35-36, c'est-à-dire de l'alliance avec Hitler, le fascisme n'est plus le fascisme, mais Mussolini se laisse entraîner sur le mauvais chemin par Hitler. Mais ce qu'on oublie quand même, c'est que le nazisme doit beaucoup au fascisme et que pendant longtemps, le national-socialisme Hitler était le disciple de Mussolini, il s'en est beaucoup inspiré. Donc, le fascisme lui-même, surtout, a commis des atrocités au moment de la prise du pouvoir, en Éthiopie et pendant la Deuxième Guerre civile, c'est-à-dire sous la République sociale italienne.
Mais est-ce que ça veut dire que la transmission de cette histoire tragique, ne s'est pas faite correctement ?
Bah, à l'évidence, oui. Alors, c'est très difficile, hein, encore une fois.
À l'évidence, c'est peut-être pas d'ailleurs si évident, parce que si on regarde le cas de l'Allemagne avec un parti aujourd'hui comme Alternative for Deutschland qui entre au Parlement, oui, alors qu'on ne peut pas dire que les Allemands n'aient pas fait ce travail de mémoire et de manière assez forte. Hein.
Alors, c'est assez intéressant de lire. Donc, avant l'émission, j'ai lu, on le trouve sur Internet, le programme donc, de Casa Pound, qui est de ces formations, bon, qui est un groupuscule qui grossit aussi quand même, et dont l'insigne est la tortue fléchée, et ils prennent l'image de la tortue pour dire qu'ils vont lentement mais qu'ils avancent, et c'est un fait qu'ils avancent, hein, depuis quelques années. Maintenant, il y a des groupes un peu partout en Italie, et ils essayent même d'essaimer en Europe. Il y a un projet là véritablement d'international fasciste. Alors, quand on connaît l'histoire du fascisme, c'est assez troublant. Il y a quelques références explicites au fascisme, par exemple ils appellent à la reconstitution d'une forme d'IRI, d'Institut de la Reconstruction Industrielle, qui était l'organisme d'État qui rachetait les parts des sociétés en difficulté, donc à l'époque de la crise en Italie. Il y a une référence à Gentile, qui était l'un des grands idéologues,
Giovanni, le même que celui qu'évoquait,
qui était l'un des idéologues du fascisme, qui est allé dans la République sociale italienne. Mais autrement, c'est un programme social d'extrême gauche avec des revendications qui, dans une Italie qui va quand même pas bien d'un point de vue économique, avec toute une partie de la jeunesse qui est au chômage, qui n'a pas de logement, hein, c'est un programme qui peut effectivement faire mouche. Et donc,
pas forcément contradictoire avec les racines du fascisme.
Non, mais donc, absolument, on retrouve là une partie des racistes, mais ceux qui ignorent probablement les jeunes gens qui, sont victimes de cette forme de démagogie, c'est que dès 1921, le fascisme a abandonné sa composante de gauche, justement, pratiquement.
Mathilde Imbertie disait tout à l'heure que ces formations-là, et notamment Casapande, jusqu'à présent n'avaient pas réalisé de gros scores. Marc Lazare, est-ce que à la faveur de ces législatives, on peut s'attendre, alors on va pas vous demander de faire des prédictions, non mais en tout cas, à ce que ce soit des scores un petit peu plus conséquents? Je sais que cette formation, par exemple, a fait presque 10% lors d'une élection locale dans la banlieue de Rome, à Ostie, je crois.
Oui, non, Mathilde Imbertie rappelait les pourcentages au niveau national, et ils sont très faibles, effectivement, c'est des groupuscules, mais ils ont quelques points d'ancrage, à Rome en particulier, mais il y a une tradition historique à Rome qui a toujours existé. Il y a des quartiers de Rome où on est non seulement toujours fasciste, mais supporter de la Lazio. C'est-à-dire qu'il y a une des deux équipes de football. Moi, j'habitais à une époque à Rome dans un de ces quartiers-là, et le siège de Forza Nova était à côté de chez moi. Donc, ils étaient toujours là. À Ostie, effectivement, dans la Vénétie, et c'est pas par hasard, parce qu'il y a toujours eu dans la Vénétie une composante d'extrême droite, et qui dans les années 70, ce qu'on a appelé les années de plomb, une grande partie d'entre eux a basculé dans la lutte armée et dans la clandestinité, et ont participé non seulement aux opérations stratégie de la tension sur des bombes posées dans des lieux publics, mais dans des attentats ciblés contre les forces de l'ordre ou contre des militants syndicalistes et politiques. Donc oui, il y a des implantations. Le mouvement est caractérisé surtout par la présence de jeunes, d'activistes qui se retrouvent dans ce type d'idéologie, dans un contexte qui a été rappelé par Marianne Matar-Bonucci, et dans un contexte aussi de grand et profond malaise politique. Et c'est la crise de défiance qui caractérise l'Europe, et particulièrement marquée en Italie, crise de défiance verticale par rapport aux élites, à la classe politique en général, et donc toutes les thématiques qui sont retravaillées d'ailleurs par la Ligue Nord, ou même par le mouvement 5 étoiles, dont on ne parle pas beaucoup, forment une sorte de porosité avec ces groupes tous pourris. Toutes les enquêtes d'opinion, et notamment le remarquable travail que fait chaque année le sociologue Ilvo Diamanti, qui publie un rapport qui s'appelle « Les Italiens et l'État » annuel, qui correspond un peu à ce qu'on fait à Sciences Po sur le baromètre de la vie politique française, qui donne énormément d'indicateurs. Donné dans la dernière enquête pour décembre 2017, 65% d'Italiens qui réclament une personne forte, d'autorité. Ça ne veut pas dire... Soyons clairs pour les auditeurs, ça ne veut pas dire qu'il y a 65% des Italiens qui veulent le fascisme, ce serait absurde. Mais dans ce climat très compliqué d'incertitude, de crise de défiance verticale et horizontale, c'est-à-dire par rapport aux autres, notamment par rapport à l'étranger, la recherche d'une référence d'autorité est là. Ça ne veut pas dire référence d'autoritarisme. Mais il y a un climat. Le titre de votre émission est provocateur, cher ami. Il est provocateur.
Et en plus, il est faux historiquement. Les chemises brunes, c'est en Allemagne, alors que les chemises noires... Voilà. On aurait dû titrer
évidemment,
c'est l'Italie.
Je crois que ce serait une erreur, et je pense que Marianne Matar-Bonucci est d'accord avec moi. Le fascisme n'est pas de retour en Italie. Il n'y a pas une vague de fascisme. Mais il y a un certain type de climat, incontestablement. D'ailleurs, vous avez employé dans votre chapeau introductif le beau mot, une certaine porosité aussi, avec des forces, qui fait qu'effectivement, il y a un petit climat tendu, sachant que la première préoccupation des Italiens pour ces élections, ce n'est pas la question des migrants, c'est la question de l'emploi. C'est la question de retrouver du travail. Et la deuxième, c'est la réduction des taxes.
Alors vous dites que vous imaginez que Marianne Matar-Bonucci est d'accord avec vous sur le fait que le fascisme n'est pas de retour en Italie. Elle va nous le dire, justement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je pense que le fascisme n'est pas aux portes du pouvoir, mais malheureusement, si la situation sociale en particulier n'évolue pas dans un sens plus favorable aux catégories défavorisées, je crois que ces forces ont compris qu'il y avait un potentiel, parce que il y a en effet une situation complexe d'indétermination politique en Italie. Il y a cette force qui est importante, qu'on les donne à combien, 20-30%, les Cinque Stelle à l'heure actuelle, 28%, et on sait bien que dans les Cinque Stelle, vous avez quand même tout un courant qui est assez proche de la droite, et la xénophobie est un thème très important. Il y a tous les abstentionnistes dont on ne sait pas pour qui ils vont voter, et ils sont habiles. Si jamais ils rentrent au Parlement, il faudrait qu'ils arrivent à 3%, si j'ai bien compris, pour avoir effectivement des députés. Ils disposeraient à ce moment-là d'une tribune encore plus importante, sachant que ce sont des groupes en plus avec des gens jeunes, donc qui savent très bien utiliser les nouveaux moyens de communication, les médias, les réseaux sociaux, sachant que le climat international est porteur, et que, comme je vous le disais, quand on lit leur programme, ils demandent le rétablissement d'un État fort qui prenne ses responsabilités, la nationalisation des banques. Il y a évidemment tout un discours contre le système, contre la finance. Ils demandent la séparation des banques d'affaires et des banques de crédit, hein, quelque chose qu'on a déjà entendu. Donc, ils se sont véritablement réappropriés des thèmes qu'on ne trouve plus à gauche. Donc, ils sont présents, habiles, et en face, il n'y a rien. En face, il n'y a pas grand-chose, en tout cas. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même une situation dangereuse.
Mathilde Imberti, je rappelle que vous êtes en Italie. Les sondages ne font pas une élection, mais quelle est la part qui est donnée aujourd'hui à ces formations comme Forza Nuova ou Casa Pound, qui sont des formations, je ne sais pas si on peut dire ouvertement fascistes, mais enfin en tout cas qu'on peut clairement en tout cas mettre dans cette famille de pensée-là. Est-ce que la possibilité justement d'atteindre cette barre des 3% qui leur permettrait d'être représentés au Parlement, est-ce que c'est quelque chose qui paraît atteignable aujourd'hui?
Pour l'instant, non. Moi, d'après les sondages que j'ai lus, il ne me semble pas, pour en avoir discuté avec Forza Nuova eux-mêmes, ils ont un espoir du côté de Taranto, donc au sud de l'Italie, d'avoir un élu, parce que connu sur le terrain, etc., figure locale reconnue, parce que c'est aussi ça les élections en Italie, hein, si vous êtes élu parce qu'on vous connaît, parce qu'on connaissait votre papa, parce que vous faites partie d'un cercle un peu précis. Donc ils mettent tout leur espoir sur une personne, en ce qui concerne Forza Nuova à Taranto. Pour le reste, a priori, les sondages, non, ne relèvent pas la possibilité d'une entrée au Parlement. Mais enfin, sait-on jamais. Non, c'est la Ligue, hein, a priori, qui tirera un bénéfice des faits de Macerata. Et ça se voit dans les sondages. En fait, la Ligue ne fait que progresser, la Ligue de Salvini.
Vous parlez de la Ligue, d'ailleurs. On ne parle plus, je crois, Mathilde Imberti, de la Ligue du Nord. Hein, c'est ça. On parle de la Ligue aujourd'hui.
Salvini clairement a nationalisé son parti. Oui, c'est un mouvement qui est lepéniste, qui est xénophobe, qui est europhobe, et il a fait campagne de manière très appuyée dans le sud, Matteo Salvini, puisque dans le nord, évidemment, il est chez lui, il est dans son fief, et non, c'est devenu un parti, c'est la Ligue de Matteo Salvini. Oui.
Alors justement, à propos de cette nationalisation de la Ligue du Nord, qui s'appelle donc désormais seulement la Ligue, Marc Lazare, est-ce qu'on peut aussi y voir une évolution qui tendrait à conforter cette idée que le fascisme, sous des formes peut-être un peu plus modérées, mais en tout cas, serait de retour en Italie, sans être de retour au pouvoir, mais en tout cas dans...
Non, je ne crois pas. Très franchement, je ne crois pas. La Ligue, au départ, à la fin des années 80, début des années 90, 1991 exactement, la Ligue du Nord, c'est le regroupement de trois ligues. Une ligue lombarde, la Ligue Vénète et une petite ligue piémontaise, et qui est unifiée par Umberto Bossi, qui devient le chef de cette ligue. Au départ, elle est régionaliste, et elle est pro-européenne, et elle est antifasciste. Elle est antifasciste. À plusieurs reprises, Umberto Bossi rappelle que l'Italie du Nord a connu la guerre civile de 43-45 en Italie, ce que maintenant tout le monde reconnaît qu'il y a eu des formes de guerre civile en Italie à la fin du fascisme. Et il explique que la Ligue Nord, elle, se situe du côté du camp antifasciste. Et il participe même à l'époque à des manifestations aux côtés de la gauche contre les fascistes. Contre
Est-ce qu'elle est toujours antifasciste aujourd'hui? Sans être fasciste, on n'est pas forcément anti.
Le paradoxe de cette Ligue Nord, c'est qu'à l'époque de 1994, elle accepte une alliance avec les fascistes ou les post-fascistes d'Alliance Nationale, mais une alliance qui est... Il y a d'un côté une alliance avec le Nord, c'est Forza Italia de Silvio Berlusconi qui l'a fait, et une alliance Forza Italia et Alliance Nationale au Sud. Et puis, ils vont converger, ils vont discuter. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Mathilde Imberti, la stratégie inspirée par Marine Le Pen, et le Front National a joué un très grand rôle auprès de Matteo Salvini, y compris Marine Le Pen en personne. Et il y a eu des envoyés du Front National qui ont travaillé avec Matteo Salvini à Milan et à Rome. Et des personnalités venues de la droite la plus extrême française. Des gens qui ont d'ailleurs des affaires judiciaires en France. Et il s'est transformé, il veut se transformer, et ça a été rappelé tout à l'heure, comme un mouvement fondamentalement anti-immigré, anti-européen et extraordinairement dur sur les questions de sécurité. Est-ce qu'il est pour autant en train de devenir une sorte de fourrier du fascisme et proche du fascisme? Je n'irai pas jusque-là, y compris parce qu'à l'intérieur de la Ligue, il y a ce que j'appelle, moi, la canal historique, pour faire allusion aux Corses, hein, de gens qui ne sont pas d'accord avec l'orientation de Matteo Salvini et qui sont toujours sur la ligne du fédéralisme, du régionalisme et de l'antifascisme, à commencer par Roberto Maroni, qui est le gouverneur de la Lombardie. Alors, ils sont minoritaires, mais ils existent. Et donc, Matteo Salvini doit à la fois faire cette stratégie nationale et en même temps éviter une scission de son mouvement, notamment dans les régions du Nord.
Marianne Matarbonacci, quels seraient les critères objectifs, alors au-delà du fait qu'une formation puisse par exemple se revendiquer comme étant fasciste, mais les critères objectifs qui permettraient justement de dire aujourd'hui bah, telle formation a toutes les caractéristiques d'un parti fasciste, s'agissant de l'Italie en tout cas?
Alors c'est une question compliquée, hein, parce que si je vous réponds comme historienne, je vous dirais le fascisme était une idéologie avec un projet totalitaire, et là ce projet totalitaire n'apparaît pas. Donc ces formations-là me font penser à des formations fascistes, mais sans totalitarisme, c'est-à-dire sans volonté de transformer l'homme profondément, de refonte totale de la société. Donc ce sont des formations nationalistes indéniablement, fascistes au sens où ils prétendent dépasser le clivage entre la droite et la gauche et inventer une troisième voie. Hein. Ça, c'était quand même très présent dans le fascisme. Fascistes aussi au sens où il y a quand même la volonté de rétablir l'autorité de l'État et un État très fort, et donc on peut imaginer que ça se fait au détriment de la démocratie, même si tous pour le moment se disent respectueux de la Constitution et de la démocratie. Mais ce qui peut faire peur quand même, c'est Marc Lazare l'a rappelé à propos de la Ligue du Nord, c'est que ce sont des formations qui sont mouvantes, et la vie politique, je veux dire, comprendre la vie politique italienne, ça suppose de lire le journal pratiquement tous les jours, parce que sinon on manque un épisode, et les partis sont en transformation permanente. Et donc on peut imaginer une nouvelle forme de recomposition autour précisément de ce thème-là, l'anti-Europe, le nationalisme, un État fort et la xénophobie. Et ça, à la fin, je ne sais pas si ça donne le fascisme, mais ça donne quelque chose qui ressemble quand même.
Un parti qui, d'ailleurs, voudrait se revendiquer comme fasciste a le droit aujourd'hui non. de le faire, Marc Lazare?
Normalement, non, la Constitution l'interdit. Et d'ailleurs, l'ex-présidente de la Chambre des députés, qui est candidate sur la coalition, dans la coalition Libre et Égaux, qui est donc cette coalition de gauche de la gauche, a demandé à ce que l'on interdise les groupes fascistes, et elle visait Forza Nuova et Casa Pound. Et ça a été, plusieurs personnes se sont ralliées, plusieurs responsables politiques et quelques intellectuels se sont ralliés à cette demande d'interdiction de ces mouvements considérés comme fascistes. Mais normalement, c'est interdit par la Constitution, mais ça n'a pas empêché, ça c'est, j'allais dire, la dialectique, comme on dit en Italie, de la politique italienne. C'est-à-dire qu'il y a une Constitution dont on a rappelé le caractère fortement démocratique, qui est écrite en 1947, enfin qui est adoptée en décembre 47. On va fêter d'ailleurs cette année les 70 ans de cette Constitution italienne, hein, 48-2018, mais il y a eu un mouvement qui s'est reconstitué très rapidement après la Seconde Guerre mondiale, qui a été le mouvement social italien, qui a été un mouvement néo-fasciste, qui se réclamait du fascisme, avec des anciens dirigeants, non seulement fascistes, mais de la République sociale italienne, c'est-à-dire le moment le pire peut-être du fascisme, hein, du point de vue de la violence, Marianne le rappelait tout à l'heure, et ce mouvement a été un mouvement légal, et ça a été la plus importante formation d'extrême droite. Parce que quand on parle de ces questions du fascisme, il faut bien sûr parler des 20 années de fascisme, mais aussi de l'expérience du mouvement social italien, de 1946 jusqu'à 1994, ce mouvement était le parti modèle. Lorsque Jean-Marie Le Pen prend la tête du Front National, où est-ce qu'il va? Il fait le voyage en Italie. Il va voir le parti modèle et il prend d'ailleurs la flamme tricolore qui était le symbole du MSI pour l'importer en France. C'est comme, je vais faire une comparaison terrible, comme les socialistes à la fin du 19e siècle faisaient tous le voyage en Allemagne pour visiter la SPD, parce que c'était le parti modèle. Bah, le parti modèle de l'extrême droite en Europe, c'était le mouvement social italien.
C'est vrai, ce qui est assez incroyable et presque incompréhensible, c'est de se dire la rapidité avec laquelle un parti comme le MSI a pu être créé aussi vite après la guerre, c'est-à-dire aussi vite aussi après la chute de Mussolini. Tout ça, ça mérite un certain nombre d'explications et un travail sur l'histoire. C'est la vocation qu'a un musée qui devrait être ouvert, alors on ne sait pas très bien quand, peut-être l'année prochaine, Musée du fascisme après d'Appio. Je vous en parle, Marianne Matarbonacci, parce que vous connaissez bien ce projet. Vous faites partie du comité scientifique près d'Appio, faut dire. Alors, c'est pas n'importe quel village.
Alors, près d'Appio est la ville où est né, enfin, la petite ville où est né Mussolini, et où il est enterré avec sa famille. Et donc, il y a une forme de tombeau mausolée au cimetière de Predappio. Alors, je crois que c'est un projet...
Mausolée dans le sens où c'est un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques de Mussolini.
Oui, mausolée d'abord parce que c'est une crypte avec un caractère extrêmement monumental. Et ensuite, parce que c'est un lieu de pèlerinage, en effet, depuis que Mussolini a été enterré là. Et les nostalgiques s'y retrouvent régulièrement. Alors, il y a à Predappio, depuis que Mussolini y est enterré, toute une série de commerces qu'on ne trouvait avant pratiquement que là et qui, effectivement, alors avec des insignes, des drapeaux, les discours du Duce, et des insignes nazis aussi, etc. Et ce qui est quand même nouveau, Marc Lazare l'a rappelé, c'est qu'avant, on ne les trouvait pas ailleurs en Italie, maintenant on les trouve partout.
Et le maire alors, donc a lancé un projet de musée très vite.
Le maire donc a lancé ce projet de musée et s'il voit le jour, je pense que ça pourrait être tout à fait intéressant, effectivement, pour tenter de reconstruire une forme de pédagogie nationale autour de ces questions.
Ce sera peut-être le lieu d'un prochain reportage de notre correspondante en Italie, Mathilde Imberti, que je remercie, ainsi que vous deux, Marc Lazare et Marianne Matar-Bonucci. Cette émission, vous pouvez, comme chaque soir, la retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain. Virginie Leduo, Antoine Tricot, Marine Beccarelli, Antoine Dulcer et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jacques Hubert.